voix Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 8 mars 2016, en direct de Washington, Idrissa Sédounia et Michel Joseph. Tout d'abord les titres.
C'est officiel au Bénin, ce sera Lionel Zinsou et Patrice Talon au second tour de la présidentielle.
Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko, candidat à la présidence, dénonce, je cite, les interférences de la police dans le déroulement de sa campagne électorale.
Raid aérien américain sur un camp d'entraînement d'Al-Shabaab en Somalie, 150 morts.
Washington propose son aide à la Tunisie suite aux attaques terroristes de lundi qui ont fait plus de 50 morts, dont 36 djihadistes.
À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'ange de Bukavu, le docteur Denis Mukwege, présente aux Nations Unies une pétition pour réclamer la fin de l'impunité pour les responsables de viols et d'abus sexuels.
Et nous reviendrons sur le sort des lycéennes de Chibok au Nigeria. Ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports pour l'instant, le journal. Au Bénin, c'est officiel, les grandes tendances de la Sénat donnent Lionel Zinsou et Patrice Talon au second tour. C'est du moins ce qui ressort du communiqué lu par Emmanuel Tiando, le président de la commission électorale, très tôt ce matin. Nous a signalé notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé. Le taux de participation est de 64%.
Au Congo-Brazzaville, le candidat à l'élection présidentielle du 20 mars, Jean-Marie Michel Mokoko, a dénoncé hier soir, dans un échange avec les journalistes, les interférences de la police dans le déroulement de sa campagne électorale. Ce général, ancien collaborateur du président Denis Sassou Nguesso, passé maintenant à l'opposition, fait en effet l'objet des poursuites de la part des services de la police alors qu'il doit aller dans les départements pour battre campagne. Il a demandé que ces poursuites soient suspendues jusqu'à la fin du processus électoral. Au micro de Ngwala Goussou, notre correspondant à Brazzaville, le général Mokoko.
Dans un État qui se respecte, lorsque nous sommes en période électorale et qu'un des candidats a vu sa candidature validée, sans que l'action de justice ne soit écartée, parce qu'à ce titre-là, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on bénéficie d'une immunité, mais la bienséance commanderait que l'on suspende ces interpellations intempestives pour pouvoir laisser le candidat battre campagne librement, puisque je ne quitterai pas le pays. Je peux donner ma parole d'honneur que je ne quitterai pas le pays puisque je suis allé me mettre moi-même à la disposition de la justice. C'est donc un gage de bonne volonté. Le peuple peut se rendre compte quand même que le 4, je n'ai pas pu battre campagne, qu'on me laisse aller à la rencontre de mes compatriotes avec qui j'ai beaucoup de choses à partager, de ce qu'eux aussi pensent et de ce qu'eux souhaiteraient voir le prochain président de la République faire pour le bien de ce pays.
La Haute Cour de justice du Mali, habilitée à juger les dirigeants et ex-dirigeants du pays, a rejeté la plainte pour haute trahison et gestion calamiteuse du pays déposée contre le président Ibrahim Boubacar Keïta par un collectif d'associations. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Il s'agit du BIPREM, bloc d'intervention patriotique pour la réunification entière du Mali. Son document a été rejeté par la Haute Cour, a déclaré à l'AFP un responsable de cette institution dont les membres sont choisis parmi les députés à chaque renouvellement de l'Assemblée nationale. La même décision est publiée dans un document interne de la Haute Cour consulté par un journaliste de l'AFP. Le BIPREM reprochait à M. Keïta d'avoir échoué dans le serment prêté lors de son investiture en septembre 2013 de garantir l'intégrité territoriale du Mali, ajoutant que la ville de Kidal dans l'extrême nord-est échappait toujours au contrôle de l'État et que le pays demeurait en proie à l'insécurité.
Les États-Unis ont tué par avion et par drone samedi plus de 150 combattants islamistes Shebab qui préparaient une attaque de grande ampleur. Selon le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis, les raids aériens ont ciblé au week-end un camp d'entraînement situé à 195 km au nord de Mogadiscio, la capitale.
Selon Jeff Davis, les États-Unis avaient appris que les combattants Shebab étaient sur le point de quitter le camp et poser une menace imminente aux forces américaines et de l'Union africaine en Somalie. Selon les premiers bilans, plus de 150 combattants terroristes ont été éliminés, a-t-il ajouté.
C'est aujourd'hui, le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Le médecin congolais Denis Mukwege présentera aux Nations Unies une pétition pour réclamer la fin de l'impunité pour les responsables de viols et d'abus sexuels. Les détails avec Anastasie Tudiache.
Signée par 200 organisations, cette pétition sera remise au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le texte, intitulé « Non à l'impunité », réclame la publication d'une liste jusqu'ici secrète de 617 personnes soupçonnées d'avoir commis des viols en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Il appelle aussi l'ONU à soutenir la création d'un tribunal spécial pour juger les auteurs et demande que des échantillons d'ADN soient systématiquement prélevés dans les affaires de viol. Ces viols sont une arme de guerre, a dénoncé le gynécologue congolais de 61 ans. Le docteur Denis Mukwege a aidé depuis 1999 dans son hôpital de Panzi à Bukavu environ 40 000 femmes victimes de viols accompagnés de violences commis à grande échelle dans l'est de la République démocratique du Congo. En 2014, le docteur Mukwege a reçu le prix Sakharov des droits de l'homme décerné par le Parlement européen. Le Belge Thierry Michel a réalisé un documentaire retraçant son œuvre dans un film intitulé « L'homme qui répare les femmes ».
Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous reviendrons en seconde partie sur le sort des jeunes lycéennes de Chibok au Nigeria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington propose son aide à la Tunisie suite aux attaques terroristes de lundi qui ont fait plus de 50 morts, dont 36 djihadistes. Maïlis Hegel.
Les États-Unis ont condamné avec force ces attaques. Le porte-parole du département d'État, John Kirby, a salué la réponse rapide et courageuse des forces de sécurité tunisiennes. Ces attaques terroristes, qui ont été perpétrées lundi à l'aube, ont visé une caserne de l'armée, un poste de police et de gendarmerie à Ben Gherdan, une localité de 60 000 habitants proche de la frontière libyenne. D'après le chef du gouvernement tunisien, Abi Bessid, il s'agissait d'une tentative d'établir un émirat de Daesh à Ben Gherdan. Le porte-parole du département d'État a dénoncé les menaces extérieures et intérieures posées par l'extrémisme sur la stabilité et la prospérité de la Tunisie. John Kirby a réitéré l'offre d'aide américaine au gouvernement tunisien. Tunis est, depuis mai 2015, un allié majeur non membre de l'OTAN, un statut qui permet une coopération militaire renforcée avec Washington. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'était rendu le 13 novembre dernier à Tunis pour réaffirmer le soutien de Washington à la jeune démocratie tunisienne. Les Américains s'inquiètent toutefois depuis des mois du risque de déstabilisation venue de la Libye voisine, base arrière d'attentats djihadistes qui ont ensanglanté la Tunisie en 2015.
Les États-Unis ont promis une plus grande transparence dans l'utilisation parfois controversée de leurs drones contre des cibles terroristes. Selon la conseillère antiterroriste de la Maison-Blanche, Lisa Monaco, l'administration Obama publiera dans les semaines à venir une étude évaluant le nombre de combattants et de civils victimes des frappes aux drones et autres depuis 2009. Pour Lisa Monaco, ce sera le meilleur moyen de maintenir la légitimité des actions antiterroristes américaines et le large soutien des alliés des États-Unis.
Les leaders européens ont dit aujourd'hui être parvenus à un éventuel accord avec Ankara pour le renvoi en Turquie de milliers de migrants. Ils sont confiants dans la conclusion d'un accord complet à un sommet prévu la semaine prochaine. Après des mois de désaccords et disputes, les 28 nations de l'Union européenne ont accepté de donner plus d'argent à la Turquie pour aider les réfugiés, accélérer la mise en place d'un régime sans visa pour les ressortissants turcs au plus tard fin juin et affirme préparer l'ouverture de nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion.
Le milliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a annoncé qu'il ne lancera pas une campagne indépendante pour la Maison-Blanche. Dans un éditorial publié par Bloomberg View, il a dit qu'il ne peut pas, en bonne conscience, courir le risque de favoriser par sa candidature l'élection du milliardaire Donald Trump ou du sénateur texan Ted Cruz. Monsieur Bloomberg a en particulier fustigé ce qu'il a appelé la campagne démagogique de Trump, qu'il a accusé d'exploiter les préjugés et craintes des gens.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco avec John Lindon.
La proportion de femmes parmi les dirigeants d'entreprises s'élève à 24% en moyenne dans le monde, contre 22% il y a un an, mais au même niveau qu'il y a deux ans, selon une étude publiée lundi par le cabinet de conseil Grant Thornton. Le numéro 1 du classement par pays est la Russie, où 45% des dirigeants sont des femmes, suivis par les Philippines et la Lituanie, 39% chacun. Trois pays africains figurent dans ce classement, l'Afrique du Sud avec 27% de femmes dirigeantes d'entreprises, le Nigeria 21% et le Botswana 16%. Cette étude a été menée auprès de 5520 entreprises dans 36 pays. La compagnie aérienne capverdienne prévoit de réduire près d'un quart de son personnel, soit 120 personnes sur 510. Ces actions, selon son directeur général, rentrent dans le cadre d'un plan de restructuration visant non seulement à réduire sa dette qui s'élève à environ 73 millions de dollars, mais aussi à attirer les investisseurs étrangers. Au Cameroun, l'honorable Peter William Mandio, député du RDPC, parti au pouvoir, accuse Joël Nana Konchou, le directeur général d'Eneo, la principale société d'électricité du Cameroun, de vouloir déstabiliser le pays. Pour lui, priver les Camerounais d'électricité de manière récurrente les expose au mal-vivre, à l'insécurité. Faute d'électricité, poursuit-il, les Camerounais ont perdu leur fierté et leur dignité d'homme.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour. En football, FIFA, Rafael Esquivel, extradé vers les États-Unis.
L'ex-dirigeant de la FIFA, soupçonné de corruption par des autorités américaines, a été extradé hier de Suisse vers les États-Unis, selon un communiqué de l'Office fédéral de la justice à Berne.
Algérie, Benzia. Joue les Fenech.
C'est la décision de la Fédération internationale de football FIFA. L'attaquant franco-algérien de Lille devrait honorer sa première convocation à l'occasion de la double confrontation contre l'Éthiopie pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il avait signé un engagement pour changer sa nationalité sportive en France, ce qui a poussé la Fédération algérienne de football à entamer les procédures administratives d'usage auprès de la FIFA.
Champions League, Zidane et le Real jouent gros contre l'AS Rome.
Victorieux 2-0 en Italie, le Real a déjà fait le plus dur et n'aura plus qu'à gérer son avance à Santiago Bernabéu avant de vivre sa première européenne à domicile à la tête des Merengues. Zinedine Zidane a toutefois mis en garde son équipe contre tout relâchement, évoquant un grand rendez-vous et un match très important.
JO 2016, qualification chinoise et australienne, qualifiée pour Rio, pas le Japon.
Au tournoi de qualification olympique au Japon, les Chinoises, entraînées par les Français Bruno Bini, avaient assuré les premières leur place au jeu en battant la Corée du Sud 1-0. Les Australiens n'avaient alors besoin que d'un nul face à la Corée du Nord pour obtenir le second ticket asiatique. Pour les Jeux, les Matildas ont fait mieux en battant les Nord-Coréennes 2-1. Le Japon, champion du monde 2011 et finaliste du mondial 2015, se sont déjà éliminés après les résultats de ces rencontres, a signé pour l'honneur une écrasante victoire sur le Vietnam 6-1 lundi à Osaka. Et enfin, avec toi, Indrissa, les résultats de la NBA.
Minnesota 103, Charlotte 108, Memphis 106, Cleveland 103, San Antonio 91, Indiana 99, Milwaukee 90, Chicago 100, Sacramento 112, New Orleans 115. Elle est Clippers 109, Dallas 90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Maintenant, nous passons à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la campagne pour le référendum du 20 mars est déjà lancée. Le président Macky Sall fait l'objet de vives critiques après son revirement, selon ses détracteurs, sur la réduction de son premier mandat. Les partisans du oui, comme ceux du non, affûtent leurs armes en vue de cette consultation populaire, Idriss Fall.
Dans le camp du oui, c'est la mobilisation. Mambay Niang, ministre de la Jeunesse, s'est rendu à Tiaroye, une banlieue pauvre près de Dakar, pour tenter de convaincre les électeurs. Il n'y a aucun changement proposé qui va favoriser le président. Ces changements sont pour renforcer la démocratie, le règne du droit et améliorer la qualité de la vie. Je viens juste de passer dans un quartier où les populations se plaignent d'avoir perdu leurs terres. Cette réforme va régler ce type de problème. Vous devez voter oui. Les 15 amendements proposés vont donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, aux administrations locales, tout en renforçant les lois sur l'héritage foncier et le contrôle des ressources naturelles par les communautés locales. Mais cette réforme fait face à une résistance farouche. Le mouvement Yanamar a même composé un single pour appeler à voter non au référendum du 20 mars. Yanamar avait joué un rôle crucial dans les manifestations de 2012 contre le troisième mandat de l'ancien président Abdoulaye Wade. Ce groupe de jeunes rappeurs avait ainsi contribué à la victoire de Macky Sall. Aujourd'hui, ce mouvement est très remonté contre le président sénégalais. Le président Macky Sall est surtout accusé d'avoir violé sa parole, d'avoir fait un revirement après un engagement ferme et répété à plusieurs reprises qui réduirait son mandat actuel de 7 à 5 ans. Le mois dernier, après avis du Conseil constitutionnel, Macky Sall a dit que cette réduction ne pouvait s'appliquer à son premier mandat. Donc, il restera au pouvoir jusqu'en 2019. Aboubakri Mbodj, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme.
D'abord, vous savez qu'en Afrique, la parole est sacrée. Quand on donne un engagement, surtout qu'on n'est pas forcé à parler, c'est lui-même qui a pris de sa propre initiative de ramener son mandat à 5 ans. S'il revient sur sa parole, ça pose un problème du point de vue de l'engagement moral.
Les partisans du président sénégalais ne sont pas du tout de cet avis. Pour eux, Macky Sall a pris rendez-vous avec l'histoire. Djibril Baldé de Benno Bok Yakar, la coalition au pouvoir.
C'est extraordinairement rare de voir en Afrique un président de la République qui propose effectivement à son peuple de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire et que ceux qui s'agitent pour dire non, nous sommes en démocratie, les gens peuvent s'exprimer. Mais le plus important, c'est de respecter la volonté du peuple sénégalais. Et je pense que le oui va effectivement l'emporter.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Au Burundi, il n'y a pas que la crise politique. Depuis bientôt 10 mois, nous dit notre correspondant sur place, l'économie burundaise tourne au ralenti avec le manque de devises en provenance des activités comme le tourisme, qui aujourd'hui ne fait plus de rentrée. Les acteurs économiques agissant dans les domaines pétroliers ou pharmaceutiques qui s'approvisionnent en devises auprès de la Banque centrale font le constat que les devises manquent de plus en plus. Mais le ministère des Finances se veut rassurant. Reportage de Christophe Kourounziza, notre correspondant à Bujumbura.
Paralysé par presque 10 mois de manifestations quotidiennes contre un troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza, le Burundi voit son économie déjà parmi les plus pauvres de la planète sombrer du jour au jour. Les économistes parlent de dégradation de l'économie burundaise. Les bureaux de change et certaines banques commerciales affirment qu'ils sont à court de devises. Fulgence Niyongeko est le président d'une coopérative pharmaceutique du Burundi regroupant 12 pharmacies. Il indique que les devises se font de plus en plus rares pour les importations de médicaments.
Le manque de devises est criant. Si on tente de faire une importation, on remarque qu'il y a vraiment un manque de devises parce qu'il suffit de déposer une licence d'importation dans une banque. C'était fluide. Une semaine, deux semaines, c'était payé. Mais pour le moment, on doit attendre deux mois, trois mois. Figurez-vous qu'on ne peut même pas payer un montant de 1 000 $, 1 500 $. Pour le moment, on essaie de bousculer à la banque, mais on dit qu'il n'y a pas de devises.
Mais du côté du ministère des Finances, le temps est plus mesuré car les devises pour les importations existent. Le Burundi disposant de 2,1 mois de devises d'importation. Désiré Moucharitse, porte-parole du ministre des Finances.
Jusqu'à aujourd'hui, nous assurons l'essentiel des importations au niveau du pays, que ce soit les biens essentiels, le carburant, les médicaments, les engrais, mais aussi tous les biens qu'on puisse importer de l'extérieur.
Moucharitse affirme que le Burundi se porte très bien économiquement.
Les experts disent que 3 mois d'importation, c'est amplement suffisant pour un pays. Et aujourd'hui, on est à 2,1 mois d'importation. Vous comprenez quand même qu'il y a un écart. C'est pourquoi on essaie de gérer au maximum ces devises.
Pour l'ancien ministre des Finances, Charles Nihangaza, 2 mois d'importation pour les devises, c'est très peu.
Si on nous dit qu'on a 2 mois d'importation, ce n'est pas plus de 100 millions de dollars. C'est très peu. Normalement, la règle, c'est de 4 mois. Quand on voyait la différence entre le cours normal de change des dollars au niveau de la banque centrale et par rapport au marché réel, ça montre qu'on a besoin de devises. Si on ne continue pas d'importer, si on n'achète pas des médicaments, si on n'achète pas des engrais, là on risque d'avoir des problèmes.
Burundi est classé comme un des pays les plus pauvres du monde, avec une économie principalement rurale basée sur l'agriculture et l'élevage, et dont le PIB par habitant ne dépasse pas les 280 $ américains selon la Banque mondiale. Le Burundi est aussi classé 185e sur 187 pays dans le classement indice du développement humain selon le PNUD. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Élection présidentielle du 10 avril au Tchad, le Conseil constitutionnel a publié hier la liste définitive des candidats. Il n'a pas pris en compte les recours gracieux introduits par les candidats dont les actes de candidature ont été rejetés. De N'Djamena, André Kodmajingar.
Ils sont désormais 14 candidats autorisés à discuter le fauteuil présidentiel d'avril 2016 par le Conseil constitutionnel. Le député fédéraliste Ngarledi Yurungar et l'ancien premier ministre de la transition Abdelkirim Fidel Mungar, deux figures emblématiques de l'opposition démocratique, sont écartés de la course. Alors que Ngarledi Yurungar entend jouer sa dernière carte en avril prochain, quelques citoyens interrogés se disent scandalisés par la décision du Conseil constitutionnel.
Si c'est grosse pointure de la politique tchadienne connue de notoriété, le cas de Yurungar et de Fidel, surtout pour Yurungar, où la jurisprudence milite déjà en sa faveur, parce que à 2-3 élections, il a été candidat. Mais si on essaye de remodifier le code électoral pour faire introduire expressément des dispositions nouvelles pour dire que tel, on invalide sa candidature, c'est pas une bonne chose. Cela préfigure le comportement futur du Conseil constitutionnel.
La décision du Conseil constitutionnel n'est pas objective, elles sont subjectives. Même sur la base de la Constitution, leur nomination, ils ne sont pas indépendants. Constitutionnellement, c'est connu de tout le monde. C'est gênant pour eux et qu'il fallait effectivement ne pas tenir compte d'eux dans la Constitution. Ils sont gênants effectivement.
C'est un choc pour l'opposition parce que c'est des candidats crédibles qui pourront plus ou moins arracher des voix pour permettre à l'opposition de ramener le président Déby au second tour. Avec déjà l'invalidation des deux candidatures, tout le monde comprend que la Cour constitutionnelle doit faire beaucoup attention pour les choses à venir.
Le président sortant Idriss Déby Itno aura en face 4 poids lourds de l'opposition parmi les 14 candidats en lice. Avec sa calebasse implantée un peu partout dans le Tchad profond, Saleh Kib Zabo, chef de file de l'opposition, est sûr de ses muscles pour mettre en difficulté son adversaire politique Idriss Déby Itno. En cas du second tour, il compte certainement sur son ancien allié Laouken Kourayou Médard, maire de la ville de Moundou au sud du Tchad, qui lui compte sur les deux Logones, le Mandoul et le Moenchari, toujours au sud du pays. Mahamat Ahmad Alabo du PLD, parti de Ibni Oumar Mahamat Saleh, disparu au lendemain des événements du 2 et 3 février 2008, entend mettre bouchée double pour rafler une partie de l'électorat du Septentrion. Joseph Dimrangar Datnadji, ex-premier ministre et membre influent du MPS démissionnaire, fait peur, car sa démission est un coup dur pour ses compagnons de lutte dans le l'OMPS d'où il était tête pensante. Un outsider qui risque de changer complètement la règle du jeu. André Kodumadingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
8 mars, journée internationale de la femme. Sur le continent, un combat représente les dangers et les défis auxquels font face les femmes en Afrique. Les filles de Chibok, au Nigeria. Le mouvement Bring Back Our Girls est né il y a presque 2 ans après l'enlèvement de plus de 250 lycéennes de la ville de Chibok par Boko Haram. Seules 50 d'entre elles ont retrouvé depuis la liberté, mais le combat continue, comme l'a constaté l'envoyé spécial de VO Africa à Abuja, Nicolas Pinot.
Tous les jours à 17h, le rituel est le même dans ce parc de la capitale nigériane. Ils sont une vingtaine rassemblés près de Unity Fountain, un monument qui célèbre l'unité de tous les États qui composent la Fédération du Nigeria. Les caméras de télévision ont disparu, mais pas la motivation des militants du mouvement Bring Back Our Girls. En ce 8 mars, cela fait 694 jours que les filles de Chibok ont été enlevées par Boko Haram. Mais l'espoir demeure, selon l'un des participants, Waziri Bello.
Je crois toujours que les filles de Chibok sont en vie et peuvent être secourues. Le gouvernement nigérien a la responsabilité de secourir tout citoyen qui se trouverait dans cette situation. Je suis là parce que ces filles sont pauvres et donc n'ont pas de voix dans ce pays. Elles ont besoin de quelqu'un qui parle en leur nom.
Bring Back Our Girls est né pour attirer l'attention du régime Goodluck Jonathan sur le sort des lycéennes. Désormais, le président nigérian s'appelle Muhammadu Buhari à Abuja et officiellement, la menace Boko Haram a beaucoup diminué. Une version contredite par le journaliste Eman Ousmane Chehou.
The president likes to say that Boko Haram has been technically defeated.
Le président aime dire que Boko Haram a été défait. Je n'y crois pas. Oui, Boko Haram ne peut plus à détruire comme il le faisait auparavant. Mais nous savons de par l'histoire de Boko Haram que ce groupe peut battre en retrait et revenir en force. Tant que les recommandants de Boko Haram ne sont pas éliminés, la menace perdure.
Au fil des mois, le combat pour faire libérer les filles de Chibok s'est élargi. Il s'agit aussi d'un combat féministe, comme l'explique Aïcha Yesoufou, l'une des porte-parole de Bring Back Our Girls.
Dans ce pays, malheureusement, quand quelqu'un est pauvre, il n'a aucune voix, aucun nom, aucun visage. Pour moi, se battre pour les filles de Chibok, c'est se battre pour la jeune fille que j'étais il y a des années et qui pleurait à l'aide et personne n'est jamais venu. Et donc, je ne peux pas les laisser tomber. Le combat pour Chibok, c'est le combat pour sauver l'âme de ce pays. Le kidnapping des filles de Boko Haram traduit tout ce qui ne va pas dans ce pays.
Aboubakar Youssouf veut aussi en faire un combat pour l'éducation au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique est encore à la traîne en matière de scolarisation.
Si on n'arrive pas à garantir l'éducation pour nos jeunes enfants, où est le futur de notre pays? L'avenir de n'importe quel grand pays repose sur une population éduquée. Le Nigeria compte aujourd'hui 10,5 millions d'enfants non scolarisés et pourtant, ceux qui vont à l'école pour briser les chaînes de la pauvreté sont attaqués.
Le 14 avril prochain marquera un triste anniversaire, celui de l'enlèvement il y a 2 ans des filles de Chibok. 57 ont réussi à rentrer chez elles, 219 manquent toujours à l'appel. Nicolas Pinault, Abuja, VOA Afrique.
Chaque mardi dans l'émission RM Show, 21h temps universel, au menu antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit... Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.